Chers frères et sœurs, je pense qu'on peut dire qu'on a assisté à une belle saga. La jauge des 30, oui, non, les référés en liberté, les interventions des uns et des autres. En définitive, la déception de se voir peu pris en compte, mais la joie de voir que l'Église a réagi. Qu'elle vit, qu'elle remue, qu'elle bouge encore, si je puis dire. Et c'est beau parce que ce n'est pas simplement pour s'agiter, mais cela signifie que l'Église est habitée par l'Esprit, que cet Esprit l'a fait vivre et l'a fait bouger. Et que c'est aussi un esprit de liberté, c'est-à-dire qu'elle choisit d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce qui est le fondement de la liberté chrétienne. Voilà, il nous faut, je pense, nous réjouir de cette unanimité parmi nos évêques, mais en même temps être soucieux de ce que cet esprit, eh bien, ne soit pas dénaturé. C'est toujours le risque. Et je pense que les textes d'aujourd'hui peuvent nous aider à comprendre comment on peut rester fidèle à cet esprit qui anime l'Église. Nous avons une belle première lecture du texte d'Isaïe, et c'est la dernière partie du livre d'Isaïe. Vous savez qu'on le divise en trois parties, qui ont été rédigées à des époques différentes. Et donc, ici, le peuple va méditer sur ce qui a causé son exil. Pourquoi il est parti à Babylone? Pourquoi il a dû quitter sa terre? Pourquoi il a été déporté? Et de retour dans sa terre promise, il y a une expression magnifique qui est une grande prière de pénitence. Voilà, c'est ce genre littéraire de la prière de pénitence. On en a dans les textes de Daniel, dans d'autres textes. On relit son histoire, on dit oui, nous avons été pécheurs. Mais dans ce nous avons été pécheurs, qu'est-ce qui est important? C'est le nous. Oui, le peuple prend conscience qu'il n'a pas à jeter l'anathème sur tel ou tel, mais que c'est dans son ensemble qu'il a été infidèle à l'Alliance. Et je me disais, c'est peut-être pas mauvais qu'on l'entende aussi pour nous. On a tellement vite fait de jeter l'anathème et de désigner des têtes de Turc, de focaliser l'agressivité. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément la démonstration de beaucoup d'habileté ni de justice parfois, mais gardons-nous de diviser notre société entre bons et mauvais. Il y a mille et un moyens de brûler des effigies. Les commentaires sur les réseaux sociaux, les insultes ou le manque de respect même dans les propos qu'on peut tenir, l'hostilité, eh bien tout ça, ça n'a pas sa place. Il faut donc réapprendre, dans ces circonstances difficiles, ce « nous ». Parce que toute circonstance difficile veut diviser. Le malheur divise, il ne rapproche pas d'abord. Chacun va vers son intérêt. C'est le sens de la lettre du pape François, Fratelli tutti, tous frères. Il veut en finir avec une division de l'humanité selon des critères que je vais établir. Et il nous dit, il faut se souvenir que mon ennemi, car j'ai des ennemis, il faut les reconnaître, c'est d'abord mon frère. Et il faut vivifier à ce point la fraternité, nous dit-il, que les conflits que nous avons à vivre, fussent-ils idéologiques et graves, restent toujours comme un conflit de famille. Il y a des tensions, mais le sentiment d'une appartenance commune doit être plus fort. Et le cardinal Ratzinger l'avait magnifiquement médité dans un petit opuscule sur la fraternité. Il disait en substance ceci: être frère, c'est se mettre à la place de l'autre, quand bien même il a fait quelque chose de mal, car c'est ce qu'a fait le Christ, lui, l'aîné d'une multitude de frères, qui a pris notre place de pécheur sans l'être lui-même. Voilà. Le pape François veut nous rappeler cette mission de l'Église, vous savez, on le dit dans le Concile, qu'elle est sacrement. Qu'est-ce que c'est que sacrement ? C'est moyen de l'union intime avec Dieu, bah oui, elle est verticale, l'Église, elle nous aide dans cette relation verticale, mais aussi dans cette dimension horizontale, sacrement aussi de l'unité de tout le genre humain. Elle est, pour les chrétiens et non-chrétiens, ferment de fraternité. Alors, pour évoquer cela, pour l'illustrer, j'ai été frappé de quelques lignes d'un évêque qui est assez vigoureux dans son propos d'ordinaire, mais il disait en substance ceci après ces derniers événements. Après ces annonces, je déplore le mépris de l'État à l'égard des catholiques. Beaucoup de chrétiens ont été scandalisés par ces mesures discriminatoires. Mais cet évêque terminait en disant ceci. Une lumière va bientôt jaillir dans une crèche à Bethléem. Dans cette période d'incertitude, les chrétiens gardent cette immense espérance et ils gardent dans leur prière également, tout particulièrement, les malades, notre pays et son gouvernement. Incluant ainsi chacune de ces réalités dans la prière, cet évêque les incluait aussi dans sa charité. Et n'oubliez pas qu'après avoir dit son désaccord profond, que la mission de l'Église, c'est de tisser inlassablement cette fraternité. Voilà, premier point en quoi ce texte peut nous aider à mieux vivre les circonstances d'aujourd'hui. Un autre point, je le résumerai par ceci en disant, après, ça ira mieux. Une autre manière de dénaturer l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Alors revenons à notre texte d'Isaïe. Soyez un peu plus dans l'histoire de l'histoire sainte. Comme je vous le disais, ce texte d'Isaïe, dans sa dernière partie, a été rédigé à une époque où le peuple est revenu en Terre Sainte. Ça a été la libération politique. Vous vous souvenez peut-être ce grand roi, Cyrus, qui a libéré les Hébreux des Babyloniens, c'est un petit peu les Américains de l'époque, si je puis dire, et qui a même écrit un magnifique édit en disant « Allez-y, revenez chez vous, rebâtissez votre temple, je vous donne même de l'argent, je vous rends ce que je vous ai pris, ce que mon père vous a pris, etc. Et allez-y, soyez bénis par votre Dieu. » Ben, on ne peut pas rêver mieux, c'est-à-dire le retour à sa terre, la liberté, etc. La reconstruction du temple, mais en définitive, c'est la grosse déprime. Le peuple va pas du tout mieux. Il a pourtant eu les circonstances attendues, mais voilà, il avait une conception beaucoup trop simpliste du bonheur. Une fois rétabli dans ma terre, je serai heureux. Combien ça nous habite, cette conception du bonheur ? Le bonheur, c'est un peu, si je puis dire, le bonheur, c'est après la rage de dents, ou demain on rase gratis. Ce bonheur qu'on fait dépendre des circonstances. Et combien ça nous habite ceci quand on dit « je serai heureux quand je serai marié ». Puis après on dit peut-être « quand je serai veuf », ou bien « quand j'aurai telle mission », ou « tel travail », ou « quand j'aurai réussi tel examen ». Quand je serai guéri de telle ou telle maladie, et puis quand la pandémie sera finie, etc. Et les circonstances, même si elles sont idéales, on sait bien, elles seront toujours décevantes. Et cette espèce de découragement qui habite le cœur du peuple une fois qu'il est revenu chez lui, nous pouvons en tirer une leçon profonde. Car c'est le moment de la conversion. Il faut comprendre, les choses ont changé. Le peuple n'a plus à attendre des circonstances son bonheur. Le temple, qu'est-ce que ça sera le temple ? Ben oui, ils vont le reconstruire, c'est vrai. Mais jamais la gloire de Dieu ne va le réinvestir, comme on le voyait dans le livre des Rois et que Salomon fait consacrer ce temple et que du haut du ciel vient cette nuée qui investit le temple comme signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Non, Dieu ne vient plus de cette manière-là. Il viendra plus comme sur le mont Sinaï avec des éclairs, etc., en rendant sensible sa présence. Non. Il faut faire ce deuil de tout cela. Le salut et la manière dont Dieu vient, c'est qu'il vient dans le cœur de chacun. Il est dit ceci, tu viens à la rencontre de celui qui pratique la justice. Tu viens plus en gros, tu viens plus en bloc, tu viens plus de manière spectaculaire. Autrement dit, le texte nous dit, arrêtons d'attendre Dieu comme une recette magique. Voilà. Attendre Dieu, c'est pratiquer la justice. Et pratiquer la justice, nous dit l'Évangile, c'est justement garder la maison. Garder la maison, c'est ce que nous dit l'Évangile. C'est important parce que qu'est-ce que ça signifie, cette maison ? C'est d'abord, eh bien, veiller sur son âme. La maison, c'est ça. Vous vous souvenez cette belle parabole de la maison bâtie sur le roc ? Il s'agit d'abord de notre vie intérieure. Quand le Seigneur nous dit « Gardez la maison, je m'en vais en voyage, mais j'établis mon autorité sur les serviteurs pour qu'ils gardent la maison de mon âme. Quelle est la qualité de ma vie spirituelle ? Quel est mon désir de Dieu ? Est-ce que c'est un vague sentiment religieux ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'enracine dans ma prière quotidienne, profonde, dans cette confrontation avec la parole ? La maison, c'est aussi l'Église. J'ai à veiller sur l'Église, mes engagements. Je peux très vite montrer du doigt tel ou tel, les évêques, mon curé, mon voisin, mon paroissien, le voisin de la paroisse, etc. Mais ce n'est pas ça, veiller sur l'Église. Quel est mon engagement effectif dans une de ces trois dimensions, la célébration des sacrements, l'annonce de la parole, le service de la charité. Voyons si nous avons des engagements ecclésiaux qui permettent de vivifier cette Église et de la garder comme le Seigneur le veut. Et puis, troisième point, la maison. En grec, c'est oikos. C'est-à-dire le mot qui a donné œcuménē. Pardon de faire un peu de grec, hein. Œcuménē, c'est l'ensemble des terres émergées, c'est-à-dire le monde tout entier. La maison, c'est le monde. Nous autres chrétiens, notre mission, c'est de veiller sur le monde. C'est magnifique, pas simplement sur notre Église, mais sur tous. Et dans ces moments difficiles, c'est plus que jamais notre responsabilité. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui ? Eh bien, c'est faire briller peut-être plus fort et plus haut notre foi et notre espérance. Les gens sont désespérés. Je l'entendais, bien des patrons songent au suicide, pour dire les choses telles qu'elles sont, à cause de problèmes financiers terribles. Eh bien, voilà. Peut-être que nous n'allons pas résoudre, bien sûr, ces difficultés sur le plan concret, mais toujours être témoin que le Seigneur est vainqueur de l'adversité et que céder au désespoir, c'est céder au démon. Voilà, sans juger personne, bien évidemment. C'est dans nos mains qu'est confié ce flambeau qu'est le Christ, à nous de le lever bien haut pour éclairer notre monde. ce fut la mission de celle qui est cette maison de Dieu, qui l'a donnée et l'a fait briller pour le monde, la Vierge Marie, et bien qu'elle nous y aide et que notre Église puisse faire briller sur le monde le visage du Christ.